Point d'orgue. Une émission proposée par Jean Percy.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous de musique liturgique. Bienvenue sur Point d'orgue. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro pour parler avec vous de musique et de compositeurs peut-être atypiques. Et aujourd'hui, ça c'est le pouvoir de celui qui fait l'émission, c'est la liberté. Eh bien, je sais que je vais peut-être pas faire consensus puisque je vais parler d'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Éclectique, brisant certains codes, je veux parler de Olivier Messiaen, immense compositeur né le 10 décembre 1908 à Avignon dans le Vaucluse et mort le 27 avril en 1992 à Clichy dans les Hauts-de-Seine, un compositeur organiste et pianiste français qui a révolutionné la musique en général et plus particulièrement la musique sacrée car c'était lui-même un très très grand croyant. Évidemment, quand on parle de ce compositeur, pour les organistes, c'est presque un poncif, tellement il fait partie, à mon sens, au même titre que Tournemire ou même Jean-Sébastien Bach, parmi les grands compositeurs de musique sacrée et notamment pour les grands musiciens d'orgue, un petit peu ces grands mystiques, ces grandes personnalités qui ont été capables, par leur vision des choses, de transcender leur instrument. En l'occurrence, pour lui, c'était l'orgue, mais également le reste, parce qu'il a été professeur au Conservatoire de Paris, il était dans la classe d'écriture, de composition, et c'est là où il a pu former encore aujourd'hui certains de ses plus grands élèves. C'est pour ça qu'il est un petit peu délicat de parler de lui, parce que aujourd'hui je parle presque sous le contrôle des gens qui l'ont connu, qui ont travaillé avec lui, etc. Et bien entendu, chacun a son ressenti, chacun a sa vision des choses, tant il est vrai qu'Olivier Messiaen était un compositeur qui laissait ses élèves dans une grande liberté. Parmi ses grands élèves, bien entendu, on peut citer Pierre Boulez, qui a notamment voulu peut-être un petit peu tuer le père à une époque, mais qui est bien entendu revenu travailler avec lui pour certains de ses projets. Alors Olivier Messiaen, avant de vous parler de sa musique liturgique, grand musicien qui a été catholique depuis le début de sa vie jusqu'à la toute fin, il a fréquenté les cercles intellectuels catholiques assez tôt et finalement il s'est avéré qu'il était extrêmement bon musicien. Il entre au Conservatoire National de Musique de Paris à l'âge de 11 ans seulement et là il a comme professeur certains très très grands messieurs comme Maurice Emmanuel et Marcel Dupré pour l'improvisation et l'orgue, et bien entendu Paul Dukas pour la composition et l'orchestration. Donc vous voyez, là aussi de grands maîtres forment des grands élèves. Et bien sûr, Olivier Messiaen fut l'un des plus brillants de cette époque-là. À l'âge de 15 ans, il obtient le second prix d'harmonie, donc c'est dire sur quel point il est, il est précoce, et puis après, peu à peu, les prix s'enchaînent, le premier prix de fugue, celui de contrepoint, etc. Ensuite, celui d'accompagnement au piano, et enfin, d'histoire de la musique. Donc, c'est quelqu'un qui a été extrêmement... qui a bien connu le mode académique de la musique. Mais, et ça c'est également extrêmement important, c'est quelqu'un qui va manifester très vite un grand intérêt pour la musique qui ne vient pas d'Occident, donc il allait peu à peu vers l'Orient. Donc il a commencé par les rythmes grecs, ainsi que les modes un petit peu exotiques, et il allait jusqu'aux rythmes et aux modes indiens. Ça fait partie de ses grands combats, et c'est ce qui lui a permis d'avoir une musique si riche. Vous allez l'entendre, si particulière aussi. Alors ce que je vous propose de faire, c'est pour commencer... parce que vous allez vous en douter, c'est de la musique que vous n'avez peut-être pas l'habitude d'entendre. Bien entendu, il faut se mettre dans un certain état d'esprit en l'écoutant. Ce que je vais vous proposer dans un premier temps, c'est une œuvre pour orgue qui s'appelle une monodie, qui est interprétée ici par Olivier Latry aux grandes orgues de Notre-Dame de Paris, magnifiquement d'ailleurs. Une monodie, c'est-à-dire, c'est l'inverse de la polyphonie. Vous n'avez qu'une seule ligne musicale, mais alors pourquoi pas mélodie, me direz-vous? C'est justement là que tout l'art de Messiaen se fait entendre, c'est-à-dire que, malgré le fait qu'il n'y ait pas forcément de mélodie, c'est-à-dire un air que l'on pourrait siffloter, que l'on pourrait retenir, il y a cette espèce de ligne musicale que nous allons entendre ici se développer tout doucement sur les claviers de l'orgue.
Thank you.
avec cette musique si spéciale. On pourrait peut-être même penser, alors c'est peut-être un petit peu iconoclaste, à du grégorien, c'est-à-dire juste une ligne mélodique ou ici monodique qui fait penser à cette espèce de variation dans le temps et dans l'espace par simplement une simple ligne musicale que moi je trouve absolument brillante. Voyez donc là, le chemin est lancé. Bien entendu, c'est une période assez particulière parce que vous doutez bien que c'est une période très féconde avec des musiciens extrêmement contemporains qui vont vouloir pousser les limites le plus loin possible. Effectivement, là, vous n'avez plus de ligne mélodique. C'est parce qu'on est dans une période où d'autres musiciens que lui avaient par exemple voulu lancer certaines autres modes musicales, comme par exemple le dodécaphonisme, qui est l'idée d'avoir une sorte de musique sérielle, où la musique, les notes, les 12 notes devaient être jouées, et on n'avait pas le droit de jouer les 11 autres notes si elles n'avaient pas été déjà jouées une première fois. Donc en fait, vous vous trouvez avec des lignes complètement fractionnées qui font qu'on ne se retrouve plus avec une mélodie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que l'on peut siffler, siffloter, qui peut rentrer dans la tête. Au contraire, c'est beaucoup plus particulier. Donc on est dans cette mouvance là si spéciale, si particulière. Et bien entendu, si j'ai décidé de vous donner un premier aperçu à l'orgue, c'est parce qu'il est impossible de différencier Messiaen de son orgue. Son orgue, c'était la Trinité à Paris, magnifique tribune, magnifique église d'ailleurs à Paris. Et là, il faut savoir pour la petite anecdote que Messiaen, vous avez vu ce type de musique et vous allez comprendre ce qui va vous arriver par la suite avec le deuxième morceau que je vais vous présenter, fort iconoclaste, vous allez voir, eh bien, il s'agit d'un musicien qui transgresse. Et bien entendu, ça, à l'orgue, lui, il avait envie, en tant que grand artiste, d'exprimer sa musique. Donc en fait, il y a eu une sorte de deal entre lui et le curé de l'époque. Eh bien, lui accompagnait les messes comme on le lui demandait, mais alors la messe du midi, c'était sa messe réservée qu'on a rapidement appelée la messe des fous. Et alors, naturellement, là, ça choquait beaucoup de monde. Les bourgeois parisiens se sont effrayés. Qu'est-ce qui se passe? L'orgue est devenu fou. D'ailleurs, un petit peu comme à l'époque de Bach. Donc comme quoi, c'est bien un problème parfois d'époque. Et bien entendu, d'autres musiciens criaient au génie et venaient exprès pour cette messe des fous qui avait fait tant date, tant parler d'elle. Et c'est évidemment avec cette grande liberté qu'avait Olivier Messiaen qu'il a pu s'exprimer et exprimer son génie au travers de ses partitions. Et il est intéressant de noter la façon dont il faisait certaines de ses messes. Je vais vous parler maintenant d'une de ses messes, il s'agit de la messe de Pentecôte avec son offertoire, et son offertoire très particulier s'appelle « Les oiseaux et les sources ». Vous allez le voir, parce que quand on a parlé du dodécaphonisme tout à l'heure, ça c'est assez intéressant, c'est quelque chose qu'Olivier Messiaen a lui-même voulu observer, sauf qu'il s'est rapidement rendu compte de la limite que cela allait lui imposer. Par conséquent, il a cherché d'autres possibilités et lui, il a trouvé cela dans la nature. Et en fait, il a trouvé que les plus grands musiciens qui existent à l'état naturel, c'était les oiseaux. Et donc, il avait toujours un petit carnet sur lui et quand il allait dans ses voyages, même jusqu'au Japon, eh bien, il prenait son cahier, et il notait les trilles des oiseaux, etc. Ce qui l'a beaucoup inspiré et lui trouvait qu'il y avait cette proximité entre la création et la nature. Il avait un aspect un petit peu mystique et totalement théologique des choses. Et donc, il, par le biais des sources et par le biais des oiseaux, vous allez l'entendre, il écrit cette offertoire extraordinaire de la Pentecôte, où se mêlent les éléments liquides et les éléments aériens qui vont de pair avec le souffle de l'Esprit-Saint.
Thank you.
Vous avez entendu ici les oiseaux et les sources sous les doigts de Jean-Claude Reynaud, immense organiste qui jouait ici sur l'orgue fabuleux Cavaillé-Coll de Saint-Sernin de Toulouse. Imaginez ce que devait être cette fameuse messe des fous, avoir cette musique-là. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais ça a le mérite d'exister déjà, et ensuite d'être totalement atypique, totalement différent. Et rendez-vous compte d'avoir cette splendeur de la création, ces évocations si extraordinaires, en plein cœur d'une messe, par le regard d'un si grand musicien. Je trouve que c'est absolument extraordinaire. Là aussi, un patrimoine à préserver, à encourager et à diffuser un maximum, puisque il est si rare. Et je trouve que c'est bien dommage. Et enfin, je voulais aborder un dernier thème qui était cher à ce compositeur d'exception qui est Olivier Messiaen, c'était la synesthésie. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout simplement que Olivier Messiaen, lorsqu'il voyait des notes de musique, voyait des notes de musique, il leur attribuait une note de couleur. Et donc certaines notes pouvaient être bleues, violets, roses, verts, etc. Et toutes avaient une signification particulière. Il allait tellement loin dans la synesthésie de ce qu'il faisait qu'il demandait même aux artistes de mettre une couleur particulière lorsqu'ils interprétaient ses œuvres, même par exemple au piano ou pour les œuvres orchestrales. Ça allait extrêmement loin. Alors bien entendu, on peut dire qu'il va loin dans ses positions, mais pour lui, c'était important. Et il y a cette espèce de volonté de faire de la musique un élément presque solide, un élément matériel. C'est très prégnant dans son œuvre d'orgue. Si vous écoutez par exemple « Dieu parmi nous » ou d'autres chefs-d'œuvre qu'il a pu composer, c'est extrêmement flagrant. Là, moi, je vais présenter une autre de ses œuvres, une œuvre absolument extraordinaire. Là, on va changer de type d'instrument, puisqu'on va passer de l'orgue, à la voix, et on va écouter son « O Sacrum » Convivium. Donc là aussi, quelque chose d'assez extraordinaire. Donc il faut savoir que lui, c'était quelqu'un d'assez mystique, je vous l'ai déjà dit. Et sur le mystère du Saint-Sacrement, donc du corps, de l'incarnation, il y a là aussi un véritable travail. Et vous allez entendre que par le choix des harmonies qu'il va utiliser, il y a une forme de matérialité, d'intimité, de substance qui est véritablement le propre de ces génies qui sont capables de mettre en avant cette matérialité de la musique et que véritablement, tout comme le Christ s'est incarné et comme il est présent dans l'hostie, cette musique qui devient corps et qui devient substance presque palpable, physique, c'est extrêmement prégnant dans ce Ode Sacrum Convivium que nous allons entendre ici interprété par le chœur des éléments sous la direction bien pensée de Joël Subiette.
Thank you.
Cette matérialité de la musique est d'autant plus flagrante, prégnante ici, que le tempo choisi par les interprètes est extrêmement lent. Alors là aussi, on peut parfois le contester. Moi, là, je trouve que ça apporte une dimension supplémentaire. Vous avez cette espèce de d'immensité et en même temps d'intimité, parce que les voix sont très ramassées, vous voyez. Alors il y a des passages qui sont un petit peu plus aigus, un petit peu plus fortés, mais vous vous rendez bien compte que c'est une musique très ramassée. Et là, on retrouve bien ce que je vous disais au niveau de la substance. Et par le biais des harmonies, des accords qui frottent un petit peu, il y a cette espèce de création, de vibration qui se crée et qui donne corps à cette musique si extraordinaire d'Olivier Messiaen. Voilà un très bref aperçu pour un immense musicien. Vous l'avez bien compris, je fais passer en avant mes goûts personnels, peut-être un peu iconoclaste. Vous avez déjà eu Jean-Sébastien Bach, etc. Des choses peut-être plus conventionnelles, mais il est également important de se pencher sur ce genre de répertoire, là aussi précieux et rare, connu peut-être par certains esthètes ou certaines personnes très attachées à ce type de répertoire-là, pardon. Mais le but du jeu, c'est aussi de le partager parce qu'il a le mérite d'exister et de faire entendre des choses si spéciales et si merveilleuses. Voilà donc pour ce numéro consacré à Olivier Messiaen. Je vous retrouve la semaine prochaine pour que nous parlions d'un autre compositeur et là aussi apprendre d'autres choses sur d'autres chefs-d'œuvre de la musique sacrée. À très bientôt et belle semaine à vous.